dans sa préface un formidable recueil d'articles intitulé « Le cinéma, un art de la complexité », Edgar Morin propose une théorie sur ce que nous enseigne le cinéma. Et il part d'un questionnement qui vous parlera peut-être autant qu'à moi. Il se demande « Comment se fait-il que notre réalité nous soit tantôt si évidente, si familière ?» Tantôt si étrange et inconnu, nous avons parfois le sentiment du peu de réalité de notre réalité. Au cinéma, bien au contraire, nous donnons une très forte réalité aux personnages et à leurs aventures. Et seule une petite veilleuse dans notre esprit n'oublie pas, durant la projection, que nous sommes des spectateurs dans un fauteuil. D'où l'idée que notre réalité humaine est tissée d'imaginaire. Nos rêves éveillés, fantasmes, imaginations, rêveries, souhaits, nos romans, nos films, nos séries télévisées, nos divertissements sont constitutifs de notre réalité humaine. La mission du cinéma est d'affronter ça. Il oblige les spectateurs à se poser des questions fondamentales sur leur vie, leur société, leur monde, voire sur l'homme lui-même, que ce soit par les moyens du cinéma de fiction, du cinéma vérité, par les moyens du film de montage, par des moyens autres. Il s'agit de confronter l'humanité avec son image pour provoquer une secousse, un choc, d'où peut naître une réflexion, une prise de conscience.
Boomerang à Cannes.
Il y a trop de films, il y a moins de starlettes, il fait tout.
Augustin Trapenard sur France Inter.
Boomerang. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang que nous apprend mon invité d'aujourd'hui. Elle est cinéaste, caméra d'or pour Jeune Femme, son premier film avec Laetitia Deutsch qui avait été présenté dans la section Un Certain Regard il y a 5 ans. Son deuxième film, Un Petit Frère, est en lice pour la Palme d'Or et sera présenté ce soir. C'est l'histoire d'une famille monoparentale que l'on suit de son installation en France dans les années 80 jusqu'à nos jours, entre intégration et désintégration, destruction et construction. Quelle joie de clore cette quinzaine avec elle. Bonjour Léonore Serrail.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Au fond, que vous a appris, que vous a enseigné le cinéma? Vous avez fini par le savoir, vous?
Oui, que le cinéma pouvait ouvrir vers tout, en fait, et tout réinventer, voir de très près. J'ai l'impression que le cinéma, ça permet de rentrer en connexion avec quelqu'un dans son intimité totale.
Ça veut dire aussi, de fait, explorer ce qui se trouve derrière les apparences, ouais, derrière les étiquettes, mmh, derrière les évidences.
Absolument. C'est quelque chose qui m'inquiète dans la vie. C'est un peu une obsession. C'est comment on peut en permanence se réinventer, se changer, se métamorphoser. Peut-être le regard de l'autre sur nous, comment on peut influer dessus.
Alors cette capacité du cinéma, Léonore Serrail, ouais, à nous faire regarder le monde autrement, en quoi diriez-vous qu'aujourd'hui c'est plus nécessaire que jamais?
Parce que le monde, il se ferme, j'ai l'impression. On est dans une fermeture et que on a besoin de l'autre, on a besoin d'être regardé vraiment.
Oui, je vous pose aussi la question, effectivement, parce que dans Un Petit Frère, vous vous intéressez, sans pour autant faire le sujet de, ouais, votre film, à l'intégration d'une famille arrivée, ouais, de Côte d'Ivoire. Des mots, justement, comme intégration, immigration, à quoi avez-vous le sentiment qu'ils sont associés dans le débat public aujourd'hui?
À la difficulté, et c'est normal, mais je trouve qu'il doit être aussi associé à la force et à la beauté, a du courage, et en fait, en tout cas, c'était ça qui j'avais, c'est des mots que j'avais envie de découvrir. J'avais l'impression de pas les connaître et de les entendre tout le temps.
Et si ça me permettait justement d'y accéder.
C'est pour ça que je suis partie dans l'écriture, parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tout ça? Donc, j'y suis allée, et j'avais pas de, c'était une recherche. C'est pour ça que le texte, alors, j'ai trouvé très beau, Edgar Morin. Parce que c'est aussi, de fabriquer un film, c'est aussi se poser des questions, c'est pas forcément tout savoir avant. Et j'ai trouvé ça, c'était ça l'idée de ce film.
Vous savez, c'est intéressant, Léonore Serrail, parce que vous vous emparez de sujets très politiques, hein, l'immigration, le racisme, la précarité, sans pour autant en proposer un traitement militant, sans, mm-hmm, jamais chercher à délivrer un message, à formuler un discours, les films à thèse. Vous n'aimez pas beaucoup ça? Ça ne doit pas être le lieu du cinéma, si?
J'aime en voir, je sais que c'est pas ma façon de m'exprimer, moi. Mais on peut, de toute façon, le politique, il est toujours quelque part, il peut être infusé dans, là, l'idée, c'était que ce soit dans l'intime, et qu'on n'en parle pas, mais il est là quand même. Il est toujours là, en fait.
Ça veut dire que même quand on n'est pas engagé, militant, mmh, faire du cinéma, c'est une autre façon d'envisager l'engagement?
Peut-être, parce que ça peut, l'engager, il y a plein de façons de s'engager, en tout cas, et le cinéma, il peut déjà, mettre la lumière, il peut réparer, il peut sublimer. Et ça, pour moi, c'est des formes d'engagement.
C'est vrai.
C'est peut-être.
Cette histoire de famille que vous nous racontez dans Un Petit Frère, elle s'inspire de celle de votre conjoint. Quelle, ouais, nécessité y avait-il à la dire, à l'écrire, à la porter à l'écran?
Eh ben, déjà pour moi, il y avait une nécessité de la comprendre, de comprendre des états. des états, des situations, des humeurs aussi, des forces, des caractères. J'avais besoin de comprendre, donc j'avais déjà besoin de la comprendre. Moi, c'est pour ça que j'écris, je savais pas ce que ça allait donner. Mais j'avais besoin d'explorer des personnes, mais comme des humains, en fait. Pas forcément comme juste des gens qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire des humains avant tout dans leur complexité et dans toutes leurs facettes. J'avais envie de les voir comme spectatrices, en fait. C'était un désir de spectatrice, je crois, d'abord, aussi.
Ça veut dire qu'il y avait une histoire manquante?
Absolument. C'est quelque chose que j'ai entendu de la part de mon compagnon. Oh, j'ai jamais vu de film ou lu de livre qui parlait de ce que j'avais vécu. Peut-être ça n'intéresse personne. Et je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, ah oui, il faut faire quelque chose. Alors j'ai essayé et il m'a donné, en effet, totale confiance.
Vous trouviez ça bizarre ou vous étiez triste? Ou ça vous a mis en colère, Léonore Serrailli?
En premier, ça m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit qu'il puisse penser que son parcours de vie n'est pas intéressant ou ne puisse pas intéresser, bien sûr, ça m'a fait de la peine, mais c'est très rapide, la peine. Après, ça se transforme toujours un peu chez moi, donc après, ça donne de la force. Donc non, j'avais envie de lui montrer que c'était possible de rendre ça intéressant, peut-être.
De la force et de l'audace, je dois dire, parce que quand on décide, comme vous, une cinéaste blanche, née en France, ouais, de s'emparer de l'histoire d'une famille franco-africaine, confrontée à des situations qui vous sont étrangères, à une histoire manquante, vous en parliez, quelle question est-ce qu'on se pose, inévitablement?
Ben, celle qu'on se pose, en tout cas, c'est la question que je me pose quand je vais voir un film, chercher le regard le plus juste. Donc, même si c'est pas ma vie, même si c'est pas... je ne maîtrise pas tout, je cherche, je me questionne et j'essaye de trouver le regard le plus juste, mais même pas sur un sujet, sur des personnes. Donc c'est ça que...
Alors c'est intéressant, hein, cette réflexion sur le positionnement, en fait, qui est le vôtre, quel impact est-ce que ça a eu sur votre façon de regarder, ou plutôt de raconter cette histoire, sur ce que vous avez choisi de mettre en premier plan et de reléguer au hors-champ, Léonore Serrailli?
Au premier plan, j'ai cherché à mettre en avant des regards au sein d'une famille. Donc, pas des statuts ou pas des étiquettes, justement. De la matière intime, la façon qu'on peut avoir de regarder le geste d'une maman et comment, après, dans le temps, on a l'impression que 10 ans se sont passés. Donc, les échos entre les gestes, c'est ça qui me...
De la complexité aussi.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que même si on aime son personnage, il peut aussi, comme dans la vie, comme tout le monde, avoir des petites failles, des petites... Et il fallait montrer ça. Chacun a tous ces aspects-là, une force en même temps, une fébrilité. Et il faut pas être dupe, quoi, je trouve. Il faut toujours être plus juste, et aussi dans ça, dans l'imperfection.
Il y a une justesse du cadrage aussi.
Oui, je me rendais compte que les comédiens sont très grands, je disais ça l'autre jour, et qui sont... Ils impriment le cadre parce que j'avais besoin de ces modèles, ces repères-là. C'était important. Et bien sûr, le cadrage avec Hélène Louvard, c'était précieux.
Au fond, qu'est-ce qui décide de la manière dont sera filmé un personnage pour vous, Léonore Serrailli?
Peut-être la petite chose qui lui échappe, le petit détail, la petite irrégularité.
C'est passionnant et on va y revenir. Mais d'abord, celle qui ne décide de rien dans cette émission, vous la connaissez évidemment, c'est la culture. Et son actualité qui ferait mieux de la mettre un petit peu en veilleuse, si vous voulez mon avis. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 27 mai?
You ready?
Yeah.
Come on.
Mom, I'd like you to meet my friend Henry Hill.
My daughter says that you're half Jewish.
Just the good half.
L'acteur américain Ray Liotta est mort hier alors qu'il était en tournage en République dominicaine. Il n'avait que 67 ans, indissociable du film Les Affranchis de Martin Scorsese qui le révèle au grand public en 1990. L'acteur avait tourné dans près de 130 longs métrages, habitué des rôles de gangsters, de flics ripoux, de suspects inquiétants. On l'avait vu devant la caméra des grands du cinéma hollywoodien comme Ridley Scott, Guy Ritchie, Steven Soderbergh ou Frank Miller. So long, L'Affranchis. Tadam! Après 3 ans d'absence, le teen show horrifique à l'ambiance résolument 80, Stranger Things, fait son retour aujourd'hui sur Netflix pour une 4e et dernière saison. Diffusée en 2 temps, la série de 9 épisodes viendra mettre un terme aux aventures de Will, Dustin, Mike, Lucas et Eleven. Alors qui vaincra les démons Gorgon? Hopper va-t-il faire son grand comeback? La banane de Steve Harrington aura-t-elle résisté aux intempéries? Réponse aujourd'hui.
God save the queen.
Punk Not Dead, à quelques jours du grand jubilé des 70 ans de règne d'Elisabeth II, God Save the Queen, le tube punk des Sex Pistols est réédité aujourd'hui dans une version vinyle événement sortie en 1977. Le morceau qui détourne le nom de l'hymne national britannique avait fait scandale à l'époque au point d'être interdit de passage télé et radio pour ne pas offenser la reine, c'est ironique. En face B de la galette, on pourra trouver le titre Did You Know Wrong, Rock On.
Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est calme? Qu'est-ce qui se passe? C'est comment l'atmosphère? C'est quoi?
Et aujourd'hui, pluie de prix sur la quai Croisette. Les sélections parallèles ont dévoilé leur palmarès. Résultat, la semaine de la critique, c'est le réalisateur colombien Andrés Ramírez Pulido qui emporte le grand prix grâce à La Joria, son premier long métrage, tandis que du côté de la quinzaine des réalisateurs sont les Français Mia Hansen-Love et Thomas Salvador qui raflent la mise avec Un beau matin et La montagne. Pour découvrir le plus attendu des palmarès, celui de la compétition officielle, ce sera demain soir en direct sur notre antenne avec les amis Christine Masson et Laurent Delmas. Le suspense est à son comble. Vivement demain. Et mon invité aujourd'hui, Léonore Serrail, dans Boomerang, ce matin, pour Un petit frère en lice pour la Palme d'Or. Et c'est seulement votre deuxième film,
ouais.
Léonore, 5 ans après le triomphe de Jeune femme récompensée par la Caméra d'Or, ici même à Cannes. Comment vous l'avez vécu, ça?
La Caméra d'Or,
ouais.
Ça m'avait un peu scotché. Puis pour le deuxième film, ça met bien la pression.
Ça veut dire quand même qu'on vous fait plus confiance, que c'est plus facile après?
Ah oui, c'est sûr qu'on nous fait plus confiance, mais ça veut pas dire que soi-même on a plus confiance.
On n'est pas serein pour autant.
Non.
Surtout, qu'est-ce qui distingue la réalisatrice que vous étiez au moment de Jeune femme de celle que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir compris, d'avoir appris entre les deux projets?
Déjà, j'ai eu 2 enfants entre les deux.
Oui, ça change.
Mais c'est
oui,
vrai que ça change beaucoup de choses.
Ça change l'emploi du temps pour commencer.
Ouais, ça change l'emploi du temps et les choses sont plus concrètes aussi. Mm-hmm. Là, pour... même pour travailler avec des enfants, c'est bizarre, mais je pense que j'aurais pas osé faire le film si j'avais pas d'enfants. J'ai travaillé avec des petits acteurs. Et c'est concret parce que ça nous met dans une histoire de vie, en fait. D'un coup, le temps passe plus de la même façon.
Oui.
Les choses s'accélèrent. D'un coup, on a l'impression d'avoir les mêmes gestes que notre mère. Ça nous touche. et d'un coup, on se rend compte que la vie passe très vite avec les enfants et qu'il faut en profiter.
Alors ce soir, c'est le grand soir. Je me suis demandé quand même quelle expérience est-ce que c'est pour la réalisatrice que vous êtes d'assister à la découverte de votre travail par les spectateurs.
Bah c'est fort, quoi. C'est fort, d'autant plus que les salles sont vides. Donc ça fait du bien, une salle avec du monde, une grande salle.
Ça veut dire que vous vous concentrez sur le spectateur, en fait.
En tout cas, je ne sais pas sur quoi je serai concentrée, franchement, ce soir. Je pense que je vais penser à rien, mais que c'est beau parce que c'est vers le plus lointain, Cannes. C'est ça qu'on souhaite, c'est de s'ouvrir que le film, on le fait pas pour juste son voisin, quoi.
Quelle spectatrice est-ce que vous êtes, vous?
Spectatrice?
De cinéma.
Alors le cinéma, pour moi, c'est principalement un besoin d'aller loin, d'aller ailleurs, justement. C'est pour ça que j'ai très peu regardé, pendant mes études, notamment de 20 à 30 ans, du cinéma français. Je regardais beaucoup dans ma chambre de bonne des films qui m'emmenaient au Japon, en Amérique du Sud. C'était un voyage que je pouvais pas me payer.
En Nouvelle-Zélande aussi, je pense évidemment au cinéma de Jane Campion, que vous citez volontiers, Léonore Serrail. Quand est-ce qu'elle est entrée? Est-ce qu'il est entré, ce cinéma, dans votre vie?
Assez tard, en fait. Mais avec force, d'abord avec La leçon de piano, classique.
Et vous parlez souvent du souffle de ces films.
Oui, parce qu'on est à la fois dans quelque chose de très brut, de l'intimité des personnages, et en même temps, on est dans le roman. En fait, on est dans la... On peut se permettre des choses musicalement parlant, on peut se permettre beaucoup de choses. C'est ça que je trouve fort.
C'est intéressant comme problématique. Comment on fait pour donner du souffle à un film?
Il faut que j'ai l'impression que les personnages, il faut aller capter le propre souffle qu'ils ont eux.
Ouais.
C'est une sorte de fresque intérieure, donc il faut aller la guetter.
Parler de Jane Campion, c'est évidemment un nom qui a marqué l'histoire du Festival de Cannes, puisque c'est la première femme à avoir jamais reçu la Palme d'Or. L'année dernière, la Française Julia Ducournau avec Titane a renouvelé, ce qui ressemble quand même à un exploit.
Ouais.
Il était temps, Léonore Serrail.
Il était temps. Bien sûr, il est temps et c'est que le début.
Mais
c'est vraiment, les choses changent. C'est vraiment positif, même si elles sont pas parfaites.
Effectivement, cette année, sur les 21 films en compétition, seuls 5 ont été réalisés par des femmes. Quand est-ce que vous avez pris conscience, vous, que les femmes étaient sous-représentées, peut-être, dans le milieu du cinéma?
avec mon premier film. En fait, je me posais pas trop la question avant, parce que j'ai fait la Fémis, on était beaucoup de filles, c'est un concours d'entrée,
c'est d'autant plus
publique.
Intéressant. Ouais.
Mais je me suis rendu compte une fois que Jeune Femme était fait, parce qu'on me posait beaucoup la question, alors vous avez choisi que des femmes pour vos postes, ce qui n'était pas vrai du tout. J'ai pas fait de casting de femmes, mais je me suis rendu compte que c'était concret, quoi, que c'était là. Mais par ailleurs, moi, j'ai jamais eu de difficulté du fait d'être une femme. Ça m'a pas posé de problème, ça m'a pas ralenti, ça m'a pas... J'ai pas souffert de ça, en fait. Au contraire, je me suis même demandé à des moments si on me prenait pas juste parce que c'était une fille et que c'était, il fallait des femmes.
Et c'est ce problème d'illégitimité, Léonore.
Ouais, oui.
Là.
Hein? Toujours.
Vous l'avez, vous, ce sentiment d'imposteur?
Bah oui, j'espère, mais c'est un moteur aussi.
En
parce
quoi?
Qu'il faut se surprendre, il faut faire un film, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de le faire. On le fait quand même pour soi-même d'abord. On a envie de se découvrir en le faisant. Donc un sentiment d'imposteur, ouais, clairement. Mais c'est normal. J'y fais plus d'années d'études ou de petits boulots que de films, donc pour moi c'est pas encore un métier normal.
On va reparler de tout ça juste après John Baez quand même pour clore en beauté cette quinzaine cannoise. Ah, In the Quiet Morning en 1972. On va chanter, hein, Léonore. Vous êtes sur France Inter avec Léonore Serrail. Vous écoutez Boomerang. Tranquille.
Boomerang, en direct du Festival de Cannes.
Il n'y a rien de mieux que faire du cinéma.
Mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'air si tranquille que ça, hein, quand même. On ressent chez elle quelque chose de vibrant, d'inquiet, une formidable vitalité aussi derrière son regard calme, posé, réfléchi, qui ne demande qu'à se déployer avec ses yeux clairs, son visage juvénile, avec son t-shirt orange qu'elle a mis ce matin, me confie-t-elle, parce que sa sœur lui dit tout le temps qu'elle s'habille en noir et blanc, fallait changer quelque chose, la cinéaste. Léonore Serrail, invitée de Boomerang à Cannes pour son film, Un petit frère, en lice pour la Palme d'Or, qui sera présenté ce soir et dans lequel, je dois dire, on est absolument ébloui par vos comédiens, et notamment par votre comédienne, Annabelle Langrone. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez un acteur, chez une actrice, Léonore Serrail?
Je recherche tellement de choses. Je cherche déjà à ce qu'il me fasse comprendre les scènes que j'ai écrites.
C'est fou. C'est fou cette réponse.
Je sais pas, mais c'est vrai.
Ça veut dire que ce que vous écrivez n'a pas encore de sens. Ça veut dire qu'un texte écrit cinéma, un scénario ne se réalise en réalité que lorsqu'il est tourné.
Ah oui, je pense qu'il y a eu certaines prises. Je fais souvent des prises, des masters, des prises très longues où j'ai besoin d'être dans le flux de ce qui se passe totalement pour comprendre vraiment. Tant que je l'ai pas vraiment vécu avec eux, je suis pas sûre que la scène elle a vraiment tout son sens.
Alors qu'est-ce que c'est ?
En tout cas, je recherche chez l'acteur, je recherche déjà un état sensible, une émotion qui est disponible en fait et qui a envie et surtout un acteur qui c'est son métier, c'est-à-dire que j'aurais beaucoup de mal à ne travailler qu'avec des non professionnels ou des enfants. J'aime bien que ces acteurs soient très conscients de ce qu'ils font.
Mais à vous entendre, quand vous parlez de disponibilité, ça veut dire qu'un acteur, c'est aussi une page blanche sur laquelle on peut écrire.
Je suis pas sûre. Pour moi, en tout cas, c'est pas. En tout cas, quand ils rentrent dans la salle du casting, c'est pas des pages blanches.
Est-ce que ça veut dire, Léonore Serrail, que le comédien ou la comédienne sont parfois co-auteurs de leur rôle, co-auteurs du scénario presque?
Du scénario, je sais pas, mais du film, on est tous co-auteurs. Même la chef décoratrice, elle est co-auteur du film. Elle m'a donné sa vision, elle m'a donné son regard, et les acteurs le font. Bien sûr, mais je suis là toute seule, là, mais c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est parce qu'on est tous ensemble.
Pourquoi ?
Parce qu'on raconte chacun différemment le film, et tous ensemble, il se passe un truc.
Toute seule, ça n'aurait aucun sens.
J'aurais du mal, je me suis posé la question pourquoi j'écrivais pas des livres, mais je pense parce qu'il y a cette étape où on passe de la solitude totale du scénario à ce travail d'équipe. Il est magique, en fait, parce que chacun a un regard sur les choses.
Et dans quelle mesure est-ce qu'il change, alors, le scénario, concrètement?
Le scénario, il change beaucoup pendant l'écriture. C'est plus important pour moi, ça prend du temps. Et après, j'arrive en casting et je suis écœurée du scénario. C'est-à-dire que je ne peux plus le voir en peinture. Et tout ce qui va être à côté, tout ce qui va être nouveau, tout ce qui va être l'inverse même de certaines choses voulues, tout était très libre après. Donc le scénario, c'est vraiment la direction, c'est très très important pour moi. Mais après, il disparaît totalement.
C'est intéressant, quel rôle par exemple a joué votre actrice extraordinaire dans le film, Annabelle Langrone, dans l'écriture du personnage, dans le dialogue?
Eh ben, Annabelle, je l'ai rencontrée vraiment, le scénario a pas vraiment bougé une fois que je l'ai rencontrée. Mais après, elle s'est emparée de Rose. Et elle a construit, en fait, un personnage. Donc elle m'a, c'est-à-dire que je suis en recherche, moi, de ce que les acteurs, ce que ça leur provoque. Donc je suis attentive. Donc après, il y a des phrases. Elle a aussi travaillé un accent. Elle est devenue Rose. C'est vraiment un rôle de composition, en fait. Et je suis attentive à tout ce qu'elle me propose. Tout est possible.
Au fond, quel objet est-ce que c'est, le scénario, pour vous? Parce que c'est un objet sans doute important. Oui. Vous avez, je le précise, reçu une formation de scénariste à la FEMIS, la grande école de cinéma en France.
Qu'est-ce que c'est, le scénario? C'est à la fois tout et rien. C'est, pour moi, c'est l'humeur du film, c'est la tonalité, c'est hyper important, en fait. C'est-à-dire que c'est presque aussi l'étape de travail, aussi une des plus fortes quand même.
Oui, pourquoi au moment où vous avez passé le concours de la FEMIS, vous avez choisi cette section-là, la section de scénario?
Alors, j'ai choisi parce que j'aimais beaucoup les histoires et j'aimais beaucoup écrire et je me suis dit, et j'aimais les films. Donc je me suis dit, et en plus, scénariste, c'était pour moi un métier très planqué. Donc je me disais, c'est bien, je vais être bien cachée comme ça.
Vous êtes servie là ce matin,
voilà.
Vous voyez.
Et à la FEMIS, j'ai vu que non, que c'était impossible d'abandonner le scénario. C'était impossible. D'ailleurs, je ne suis pas scénariste de personne, je n'y arriverai pas. C'est impossible. Je pourrais pas laisser l'histoire partir et pas aller choisir des comédiens avec. C'est impossible.
Quand est-ce que vous avez commencé à raconter des histoires, Léonore Serrail?
Je sais pas, en jouant avec mes jeux, peut-être petite, mais non, pas très tard, en fait, parce que j'aimais surtout étudier la littérature. Et encore une fois, le complexe de l'imposteur, qu'est-ce qu'il faut? J'étais déjà intéressée par les histoires des autres, en fait.
Oui.
Et après, très tard, en fait, à la FEMIS.
Et oui, et puis on parlait en début d'émission, tous les deux, d'images et d'histoires manquantes. Quelles sont les histoires qui ont pu vous manquer, vous? Parce que je me dis que c'est toujours un peu pour ça qu'on en raconte.
Moi, c'est des histoires, plus que des histoires, c'est des personnes qui me manquent. Des personnes, je pense que pour jeune femme, j'avais besoin d'une femme très 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 compliquée, J'avais l'impression qu'elle n'avait pas le droit d'exister dans un film et j'avais envie de lui faire de la place. Oui, un manque, des manques de modèles aussi.
C'était une jeune femme fantasque, un peu perdue.
Et en même temps, insoumise, un petit peu. Donc, je cherche à me construire un peu des modèles qui me tirent en avant. Alors, ça n'a pas forcément été le cas. C'est-à-dire qu'elle a mis la barre haute, Paula. Elle parle beaucoup, elle est très à l'aise, elle avance. Et moi, j'essaie toujours, quand j'y pense, je me dis, ouais, ça suffisait pas de faire le film pour devenir comme elle, en fait. Non, c'est plus compliqué que ça.
Oui, oui, c'est la question que j'allais vous poser. Dans quelle mesure, vous, en tant que scénariste et réalisatrice, vous avez la capacité de réparer les manques aussi?
Bah, on répare les manques en mettant de la beauté. C'est-à-dire qu'on sublime. Quand on se met à écrire une histoire, on peut, c'est le truc de l'alchimie, quoi. C'est que d'un coup, on part de nos réalités et on peut en faire un objet complètement faux et fabriqué, mais qui en même temps a un éclat.
Je parle de scénario, ouais. Je parle de mots, je parle d'éclat des mots avec vous, parce qu'ils jouent un rôle très important dans votre film. Ils vont constituer pour l'un de vos personnages, qui deviendra professeur de philo, un outil de compréhension du monde. C'est aussi pour ça qu'on a commencé l'émission comme ça. Les mots, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous, en fin de compte, Léonore Serrail?
Les mots dans ma vie? Quelle question.
Bienvenue dans Boomerang. Hein.
Les mots, ils ont souvent soit fait beaucoup de bien, soit fait beaucoup de mal, parce que ils construisent, ils m'ont construite aussi.
Il y a un mot qui m'a marqué
tout
à l'heure.
Les mots des professeurs, ils construisent beaucoup.
Vous avez parlé du temps. Dans quelle mesure diriez-vous qu'ils vous ont aidé à mieux comprendre ce qu'était le temps? Parce que c'est un sujet clé que vous abordez dans Un petit frère et que vous abordiez aussi dans Jeune femme. Le temps.
Oh là là, le temps.
Ah, ça m'a l'air central chez vous.
Parce que c'est le temps, parce que je sais pas, mais le temps c'est ce qu'il y a de plus angoissant, non? Le temps c'est la mort, quoi. En fait, donc il faut, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le moment où on n'est plus là?
On le retient?
Ouais, on le retient. Quand on est dans une prise, on fait ça, non? Et en plus, on peut le refaire. Donc on peut arrêter l'instant et on y retourne.
Et en plus, on immortalise, comme ça reste tout le temps.
Je pense que c'est pour lutter contre l'angoisse. Je sais pas, je me pose des questions, pourquoi je fais ce métier finalement?
Ouais, vous l'avez compris quand?
Pendant des prises de ce tournage.
C'est vrai?
Oui.
À quoi?
Que finalement c'était plus facile de recréer un instant que de vivre la vie. En fait, ça m'a beaucoup perturbée.
Le présent, au fond, qu'est-ce que ça représente pour vous, Léonore?
C'est tout, mais quelle force il faut avoir pour le saisir, pour être ancré là. Moi, je suis tout le temps je cours tout le temps, en fait. Je suis une stressée de service, donc je cours, j'anticipe. Je suis jamais là, vraiment. Donc là, quand dans le cinéma, j'ai plus le choix. Il faut être là, présent, avec les comédiens. Tac. Obligé.
Et devant un film de cinéma, en tant que spectatrice?
Ouais. Et ben...
ce que vous recherchez?
Je recherche à être émue. Je cherche à oublier des choses. Je cherche à en découvrir. Je cherche à être cueillie, vraiment. Si ça me prend pas fortement, c'est compliqué.
À être là, en fait.
Je cherche l'intensité. Voilà. À être là, ouais, vraiment. Mais là, avec des personnes. Toujours. Je me rends compte, c'est vraiment les personnages des films qui m'intéressent plus que des fois, le sujet, je m'en fous un peu. Mais si l'instant, il est vrai avec les personnes filmées, c'est fort.
C'est pour ça qu'il faut y aller.
Ouais.
Au cinéma.
Ah oui, oui.
Et quelle merveilleuse façon de conclure cette émission et cette quinzaine. Merci Léonore Serrail d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle qu'Un petit frère, avec Annabelle Langrone, Stéphane Bach, Kenzo Samba, Ahmed Silla, entre autres, est en lice pour la Palme d'Or, qui sera présentée ce soir. C'est la fin pour nous de cette quinzaine cannoise et j'aimerais remercier toute l'équipe de Boomerang qui a été formidable. Vraiment Lola Costantini, notre réalisatrice, Perrine Malinge, notre programmatrice, Léonard Billot, Pierre Démé, Victor Candelave, Jean-Baptiste Audipère, ainsi que toutes les équipes techniques de Radio France, Sandrine Bréchaud, Francesca Fossati, Raja Boudni, Hélène Langlois, Alix Barrois, Pierre Faucillon, Georges Thau, Virginie Lorda. Rendez-vous quand? Lundi, à Paris. Tout de suite, ça va être la médiatrice de nos antennes sur France Inter, Emmanuel Davier, c'est juste après ça.
Moi, je caresse ton visage sur partir. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu, vieux monde adoré. Adieu, vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Toi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Soiffée de cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il celui auquel on sacrifie? Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que
Cristaux liquides, feu Chatterton, il est presque 9h40 sur France Inter et tout de suite c'est l'heure de la médiatrice de nos antennes, la redoutable écanoise Emmanuelle Davier. Salut, 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 salut!